BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription des Yvelines viennent répondre à nos questions. Nous accueillons aujourd'hui François Blaise, candidat du Parti Animaliste. François Blaise, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 40 ans, vous êtes analyste bancaire, vous êtes candidat donc avec comme suppléante Fernande Duval. Première question, François Blaise, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ?
J'ai décidé de me présenter à ces élections législatives parce que c'est une thématique qui personnellement me tient à cœur, le bien-être animal, le respect des animaux. Et c'est également une thématique qui en ce moment, je ne vais pas dire est dans l'air du temps, mais en tout cas est un point de questionnement de nombreuses personnes. Et donc j'avais envie d'apporter moi, mon soutien et mes efforts au Parti Animaliste pour ces élections, donc je me suis présenté ici.
On va revenir sur votre programme et notamment sur la partie animaliste, mais d'abord des questions plus générales sur la situation nationale. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la réélection d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles ? Donc on rappelle qu'il a obtenu 58,55% des suffrages exprimés au second tour contre 41,45% à Marine Le Pen.
Sur l'élection en tant que telle, j'allais dire, c'est le sentiment que j'ai eu a posteriori, c'est que ça a été une élection un petit peu désabusée, dans le sens où actuellement, donc pour les campagnes législatives, on participe à des opérations de tractage, donc sur les marchés, sur les gares, etc. Et l'accueil qu'on a des personnes est justement cet accueil un petit peu triste ou désabusé, des gens qui commencent à dire « non, la politique ne m'intéresse plus, les élections présidentielles, ça s'est mal passé, ne m'en parlez pas, ne me parlez pas de politique, de toute façon, on n'est pas écouté. » Donc il a été élu, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de casse et que maintenant, en plus d'un travail de campagne, on a une espèce de travail un peu pédagogique pour essayer de réintéresser les gens à des questions politiques.
Des questions maintenant d'ordre général. Que pourriez-vous faire pour améliorer le pouvoir d'achat ?
Alors, pour améliorer le pouvoir d'achat, nous, de toute façon, toutes nos thématiques sont centrées autour du bien-être animal. Donc, on va avoir plutôt des propositions pour diminuer la TVA, par exemple, mais sur des produits qui seront sans cruauté animale, sans souffrance animale, éthiques ou écologiques, parce qu'on on essaie de planifier tout ça aussi dans une idée de transition écologique. Donc, les gains seraient plutôt sur ce genre de produits au quotidien.
Et puis, autre chose, que pensez-vous de la réforme de retraite à 65 ans ?
Alors, la réforme des retraites à 65 ans, c'est pas vraiment dans nos thématiques, comme je disais, donc on est un parti monothématique, donc toutes nos questions s'occupent du bien-être animal. Sur la réforme en elle-même, le parti ne se positionne pas. Moi, je vais avoir mon avis, mais c'est par exemple mon avis personnel. Je trouve que c'est un petit peu tard, par exemple. Mais le parti va s'occuper, on va dire, des à côté, parce qu'on parlait de retraite. Mais par exemple, nous, on a toute une thématique sur quand les gens sont à la retraite ou sont un peu âgés ou vont aller en EHPAD. Par exemple, actuellement, c'est pas possible pour eux de garder leur animal de compagnie. Ils sont obligés de l'abandonner ou de le placer. Donc nous, on va avoir des thématiques là-dessus pour au contraire dire on va essayer d'encourager, inciter les EHPAD à ce que les gens puissent conserver leur animal parce que ça fait partie de leur vie.
Et puis, avant de parler de votre programme, une question précise sur l'actualité locale. Il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville. Est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de cette prison dans la commune ?
Alors, concernant la construction de la maison d'arrêt à Magnanville, encore une fois, on va reprendre ça à travers le prisme donc du parti animaliste. Je crois que le point, que si j'ai bien compris le sujet, c'est qu'apparemment, ça va être construit sur des emplacements agricoles. Alors qu'il y a des personnes, des associations qui auraient plutôt voulu que ça soit fait sur des friches. Là, sur ce point-là, par exemple, on va être d'accord. Nous, vu qu'on essaie de viser à une, on va dire, autonomie alimentaire en France, les projets qui vont viser à détruire de la biodiversité, détruire des champs, détruire des espaces plutôt naturels, on va plutôt être contre si il y a possibilité, effectivement, de faire ces mêmes projets à d'autres endroits.
Nous allons maintenant parler de votre programme, qui est donc axé sur la protection animale. Concernant la jeunesse, vous souhaitez qu'à l'école, l'enseignement éduque à l'éthique et au respect de l'autre, notamment l'animal. Quelles sont vos propositions en ce sens dans le milieu scolaire ?
Nos propositions, dans ce sens, ça va être déjà de faire une éducation, on va dire, alimentaire, c'est-à-dire de permettre, par exemple, à des cantines de proposer des menus végétariens. On va avoir aussi des points, alors ça, c'est pas à l'école, mais c'est un petit peu après, au collège ou lycée, etc. Mais c'est de ne plus, par exemple, dans certaines classes, imposer les dissections systématiques. Parce que là, on va dire, il y a pas de statut d'objecteur de conscience pour les élèves. C'est soit on fait pas, et ça c'est un problème. Et puis, c'est de montrer aussi qu'on est là pour promouvoir nos idées, parce qu'il y a beaucoup d'écoles où il va y avoir des animations qui vont être faites, par exemple par les fédérations de chasse, qui vont faire des animations autour du sanglier, de la chasse, etc. Et dès que le Parti Animaliste ou d'autres associations animalistes qui vont venir, on va dire, ah mon Dieu, c'est de l'entrisme, ils veulent, etc. Donc on est aussi là pour pousser des idées. C'est pas pour forcer les gens à faire, mais c'est pour montrer que ces réflexions-là existent et voilà, et sont possibles.
Sur le plan de la vie économique, vous proposez là aussi un certain nombre de mesures pour aider les familles qui possèdent un animal. Alors de quel type de mesures parlons-nous ?
Alors, c'est des mesures qui permettent déjà de considérer l'animal, on va dire, je mets un peu des guillemets, comme un membre de la famille, parce que bah, pour beaucoup de gens qui ont un animal domestique, c'est un peu le cas. On va avoir des mesures donc qui pourraient encourager, par exemple, à lutter contre l'abandon, c'est-à-dire si les gens partent en vacances, plutôt que d'abandonner leur animal, ils pourraient le faire garder. S'ils veulent le faire garder, on pourrait les encourager en leur proposant, par exemple, un crédit d'impôt. Nous, c'est ce genre de proposition qu'on a justement pour aider les gens. On voudrait que pour certains animaux qui travaillent, genre les chiens de maître chien, les chiens de garde, les chevaux, etc., il puisse y avoir aussi un certain nombre de cotisations pour aider, on va dire, quand l'animal sera à la retraite, parce que bah, les animaux, une fois qu'ils ont travaillé toute leur vie, c'est la même chose. Des fois, ils se retrouvent abandonnés quand ils n'ont plus d'utilité. Donc nous, en fait, on est là vraiment pour encourager les gens à ce que, et surtout leur montrer que la société reconnaît que l'animal qu'ils ont est un membre à part entière. J'allais dire, on a un projet un petit peu fou, un petit peu utopiste, mais ça serait de dire aussi, bah, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas considérer, quand on a un certain nombre d'animaux, que ça compte pour une petite fraction dans les impôts sur le revenu? Est-ce que ça va compter sur des parts dans le foyer? Donc, on a des idées comme ça. On n'a pas dit qu'on va tout faire, mais ça permet au moins de poser ces questions.
Toujours concernant l'économie, vous dites que de nombreux secteurs et donc de nombreuses entreprises dépendent de l'exploitation animale et vous comptez vous engager dans des filières d'avenir. Comment souhaitez-vous développer les technologies et les entreprises de demain non dépendantes de l'exploitation animale ?
Alors, de la même façon, je disais, on va pas forcer les entreprises, on a plutôt une politique d'encouragement. Donc, nos propositions seront effectivement, par exemple, d'aider les agriculteurs à se reconvertir pour changer de filière. S'ils, par exemple, ils font de l'élevage et qu'ils se rendent compte que c'est trop compliqué et qu'ils veulent faire une autre activité qui entraînera moins de souffrance animale. Là, si on reprend l'actualité, par exemple, là, on voit qu'actuellement, la filière de l'élevage, en fait, est en grande difficulté. L'État a débloqué 300 millions d'euros, je crois, pour les aider, pour acheter de l'alimentation. Et donc, nous, on s'est dit, quitte à dépenser 300 millions, est-ce que ces 300 millions, ça sert juste à maintenir un système qui est à bout de souffle vu la situation actuelle, ou bien est-ce qu'on utilise ces 300 millions pour essayer de transformer les choses? Donc, pour l'instant, par exemple, le gouvernement n'est pas dans ces optiques-là, c'est on maintient un statu quo. Donc, nous, on sera plutôt à dire, non, on va essayer d'encourager, d'investir pour transformer la façon de faire, les façons de faire, parce que finalement, j'allais dire, c'est même pas nous qui allons pousser pour ça, c'est que, j'allais dire, le sens de l'histoire actuellement pousse vers ce genre de choses.
Et du coup, vous pensez à quel type d'entreprise où il serait plus facile de les reconvertir vers une activité moins dépendante ou non dépendante de l'exploitation animale?
Alors, j'allais dire, à part l'élevage pour l'alimentation, j'allais dire, toutes les entreprises qui utilisent des animaux peuvent se reconvertir. Là, moi, j'ai des exemples personnels. Dans la région de Rouen, il y a pas mal d'industries pharmaceutiques. Les industries pharmaceutiques faisaient jusqu'à encore récemment et font encore des tests sur les animaux. Et donc, en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille là-bas qui me disait qu'en fait, maintenant, ils ne font plus de tests sur les animaux. Déjà parce que c'est plus fiable. Parce que c'est pas parce qu'on fait un test sur un animal que ça se passera exactement de la même façon sur les humains. Et puis, surtout, finalement, ils se sont rendus compte qu'une fois qu'ils ont changé, même pour eux, il y avait un gain économique, ça coûte moins cher. Alors, c'est peut-être un peu froid et pragmatique, parce que là, on parle pas ni de sentiments, ni de souffrance, mais même pour l'entreprise, finalement, travailler et faire ces tests sur donc en éprouvette, était plus efficace pour eux que de faire des tests sur des animaux. Mais par exemple, malheureusement, en France, c'est encore le cas, on a des élevages de chiens pour destinés au laboratoire. Donc finalement, toutes les entreprises qui exploitent, on va dire, les animaux peuvent faire des transitions. On sait que les cirques, nous on est pour l'interdiction de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, et on voit qu'il y a des cirques qui ont déjà réussi à faire leur transition. On est pour la fin de l'exploitation dans les delphinariums, mais finalement il y a déjà pas mal de delphinariums qui font leur transition aussi, on va dire. Par exemple, je crois qu'au parc Astérix, ils ont arrêté de faire de la reproduction. On est pour l'arrêt de la corrida, et finalement, encore une fois, j'allais dire, l'histoire va dans notre sens, parce que cette année, il y a déjà des corridas qui sont annulées parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce que ça coûte trop cher. Donc finalement, on est juste en train de pousser dans le même sens que les événements en ce moment.
On aborde à présent la santé. Vous désirez réduire en France la production et la consommation de protéines animales de 50% en 5 ans. Vous pensez que ça a un lien avec les causes des pandémies?
On parle souvent, en fait, dans ce cas-là, de zoonoses, donc les maladies, en fait, des animaux. Donc qui vont ensuite se transmettre à l'homme. Alors je ne vais pas parler du Covid pour l'instant, mais là actuellement, donc on parle de, effectivement, on a parlé de la variole du singe qui potentiellement pourrait arriver. On ne sait pas comment ça passe entre les humains et les animaux. On voit tous les abattages qu'il y a eu dans le nord de la France avec la peste porcine, où on abattait les cochons, les sangliers, parce qu'on avait peur justement que ça passe aux humains à un moment. On voit en ce moment, enfin il y a un mois, les résultats de la grippe aviaire, où en Bretagne, ils ont tué, je crois qu'ils ont gazé 10 millions de poulets, puis les ont enterrés sous une autoroute parce que ça coûtait trop cher pour s'en débarrasser. Donc on voit qu'on a un système qui finalement fonctionne pas. Donc encore une fois, si on peut réduire, et c'est ce qu'on propose aussi, c'est de réduire les tailles des exploitations. C'est pour ça qu'on dit on veut réduire les élevages dits industriels ou intensifs. C'est-à-dire quand on parque les cochons dans des hangars, quand on parque les poulets au point où il n'y a plus de place. Parce que finalement, on se rend compte que quand le système il marche pas, la seule solution, c'est ça, c'est on casse tout, on détruit tout, on tue tout et on recommence. Mais on recommence exactement dans la même situation. Là, par rapport à la grippe aviaire, la seule solution qui a été trouvée, une fois que tous les poulets ont été tués et qu'on a fait de la place, c'était de se dire, l'année prochaine, si ça recommence, est-ce qu'on va pas développer un vaccin pour les poulets? Mais on garde les poulets dans les mêmes conditions. Donc pour nous, tout ça, ce sont des choses qui sont absolument pas acceptables. Et donc c'est pour ça que déjà, on pousse là-dessus sur le fait que on doit réduire nos espaces. On se rend compte qu'en plus, la quantité, on va dire, de protéines d'animaux qu'on élève, ça coûte énormément en termes de matières premières, de ressources. On voit là avec le prix des céréales que finalement, ça marche pas et que l'État est en train de subventionner massivement. Et à côté de ça, on voit que la production de protéines végétales, que ce soit avec du pois, du soja, des légumineuses, etc., en fait, elle est en train de monter. Même les fast-food maintenant commencent à proposer des burgers végétaux avec des steaks sans viande. Donc finalement, encore une fois, on est dans un mouvement global, en fait.
Et ça, c'est quelque chose... là, on parle de 50% en 5 ans. À terme, l'idée, c'est de réduire... à 100% cette consommation de protéines animales.
J'allais dire, dans un monde utopique, nous, ça serait effectivement notre objectif. Ça serait effectivement qu'on arrive à s'en passer. On a les moyens, c'est un peu ce que les gens nous reprochent quand on va tracter, les gens qui sont un peu, on va dire, opposants sur ces idées-là, vont nous dire, mais vous vous rendez compte qu'on a toujours consommé de la viande, qu'on ne peut pas faire autrement. Et en fait, on est dans une société, j'allais dire en France, mais la plupart des sociétés occidentales et on est dans des sociétés où on a physiquement les moyens de se passer de viande et on ne sera pas carencé. Et on nous disait, attention, mais avec les enfants, vous rendez bien compte. Mais finalement, en fait, il existe maintenant des laits infantiles pour enfants qui sont, on va dire, végétaux, parce qu'ils sont sans lactose, sans etc. Et donc finalement, on a les moyens de réussir à le faire. Donc finalement, on conserve des consommations de viande aussi par habitude, parce que c'est bon, parce qu'on a toujours grandi comme ça, parce que on a l'impression que ça fait partie de nos traditions et que c'est compliqué de changer. Et on en est bien d'accord. Mais effectivement, nous, notre objectif, ça serait de se dire, à un moment, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin, pas dans ces conditions-là. Parce que là, pour l'instant, on voit que c'est aussi du gaspillage. On produit énormément, on exporte beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des animaux dans les laboratoires. Je crois que c'est le directeur de la NASA qui avait dit que, de toute façon, sur tous les animaux qu'ils tuaient pour la recherche. En fait, la moitié étaient tués pour rien, juste parce qu'ils occupaient de la place. Donc en fait, on utilise vraiment les animaux comme des biens de consommation, puis on les jette. Donc nous, effectivement, pour nous, tout ça, c'est ça, c'est contre ça qu'on lutte en fait tous les jours.
Et vous pensez que pour les agriculteurs, pourriez les accompagner pour vraiment faire une transition complète et,
Alors, il y a des agriculteurs qui le souhaitent, on va dire. Il y en a, pendant la campagne présidentielle, donc la candidate Hélène Touy du Parti Animaliste, donc qui a malheureusement n'a pas eu ses 500 signatures, a fait quand même une tournée et est allée rencontrer un certain nombre d'agriculteurs et elle en a rencontré qui, justement, lui faisaient part de leur désarroi face à leur situation, parce qu'on sait qu'agriculteur, c'est un travail dur, c'est un travail qui demande énormément. Malheureusement, il y a beaucoup de suicides dans la profession. C'est un métier très isolé. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas, j'allais dire. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit effectivement les militants animalistes qui s'affrontent assez régulièrement, on va dire en joute verbale, avec les militants qui s'identifient comme France Agro Tweet. Donc, c'est les agriculteurs sur Twitter français, entre autres. Donc il y a des petites joutes là-dessus parce que eux essaient de maintenir un modèle qui pense immuable et parfait mais qui est subventionné, mais il faut pas le dire parce que ça vexe. Et nous en fait on essaye de pousser pour un changement alors souvent radical du modèle, donc peut-être à l'autre extrême aussi, mais finalement la question en fait n'est pas aussi tranchée. Il y a des pôles très clivants, mais au milieu il y a quand même beaucoup de gens dans cette espèce de zone grise qui sont prêts à nous dire ah oui, Ça, on peut accepter de diminuer ça. Ça, moi, je veux bien réduire telle chose. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent faire du passage au bio, qui veulent faire du passage en plein air. Bah, ça va changer par rapport à la façon d'élever les animaux. Notre objectif, c'est pas d'arrêter du jour au lendemain et dire on ferme les robinets de l'élevage. C'est de dire, voilà, les pires pratiques, on va les arrêter. Et une fois que ces pires pratiques-là seront arrêtées, on va continuer à enlever ce qui est le pire à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui satisfasse, on va dire, la grande majorité des gens. Mais finalement, pour l'instant, la grande majorité des gens, elle est pas satisfaite parce qu'on voit, là, on est dans une région de chasse, mais chaque fois qu'il y a un petit sondage parce qu'il y a un accident, on voit que 7 à 8 personnes sur 10 seraient prêtes à dire oui, j'aimerais bien qu'il y ait pas de chasse le dimanche. Donc finalement, on voit que la situation actuelle, pour l'instant, elle est pas satisfaisante pour tout le monde.
Et sur le thème de la sécurité, votre programme fait le lien entre la violence et notre relation aux animaux. De quelle manière ?
Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on entend assez souvent quand on tracte, quand on va voir des gens dans la rue et qu'on leur présente notre projet. Et souvent, les gens vont avoir ce retour qui nous disent « Ah ben, je vous comprends dans votre combat parce que oui, moi, j'ai un chien, j'ai un chat ou je connais quelqu'un qui... » Et finalement, j'ai remarqué les gens qui sont pas gentils avec les animaux, ils sont pas gentils avec les hommes. Comme s'il y avait, je vais pas dire une confusion, mais ça veut bien dire déjà qu'on considère les animaux comme des individus à part entière, et que finalement, effectivement, on peut pas avoir deux cœurs. En fait, un cœur pour dire moi j'aime les animaux, mais j'en ai rien à faire des hommes, ou bien l'inverse, de dire je ne pense que aux hommes et j'en ai rien à faire des animaux. Finalement, tout ça c'est assez lié. Donc finalement, je pense que alors dans notre programme, il n'y a pas beaucoup de propositions sur le thème, on va dire, de tout ce qui est sécurité. Ou autre, à part le fait qu'on veuille, par exemple, mettre en place au niveau des polices ou des gendarmeries, des gens formés, justement, sur toutes ces questions de violence vis-à-vis des animaux, du bien-être animal, pour qu'ils puissent intervenir et que ça soit plus facile. Mais finalement, comme tous ces sujets sont liés, effectivement, les sujets de sécurité, de toute façon, peuvent être aussi envisagés par nous. Donc toujours à travers, par contre, ce prisme de la relation entre les hommes et les animaux.
Il nous reste 1 minute 30, François Blaise. On a abordé un certain nombre de thématiques en lien avec la protection animale. Quelles sont les autres mesures phares que vous souhaitez mettre en avant pour ces élections ?
Les autres mesures, je pense que nos mesures principales, et on les a rapidement abordées, mais c'est vraiment interdire, alors je sais que ça peut choquer les gens, mais on veut interdire la chasse à courre. On veut interdire le déterrage de blaireaux, les chasses traditionnelles à la glu, qui n'ont pas de sens par rapport, si ce n'est juste un plaisir égoïste. On nous dit tout le temps, on nous renvoie tout le temps que les chasseurs sont là pour aussi réguler. Mais pour le coup, là, c'est le patron des chasseurs, Willy Schrein, qui l'a dit lui-même qu'il en avait rien à faire de réguler. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment leur rôle? Est-ce qu'il faut maintenir peut-être une chasse, on va dire, de loisirs mais alors à ce moment-là, moins cruel que d'aller planter et courir après un animal avec des chevaux, etc. Est-ce que il faut pas confier la mission de régulation à un autre office, qui ne soit pas les chasseurs, justement, parce qu'on fait une confusion des genres? Donc ça, c'est un projet important pour nous. L'autre projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute notre relation avec les animaux sauvages. Arrêter d'exploiter des animaux sauvages dans les cirques, et les mairies ont commencé à le faire, et donc c'est bien, il faut continuer à les encourager, parce que pour l'instant, c'est pas pris partout. Arrêter la corrida. Donc c'est ça aussi, on nous a demandé, mais vous êtes finalement écologiste, pourquoi vous vous rapprochez pas du parti écologiste? Le parti Europe Écologie a investi un candidat qui soutient la corrida, donc on est aussi dans une confusion des genres. Nous, en fait, c'est aussi la force de notre parti. C'est être monothématique, c'est un peu une faiblesse, mais c'est aussi une force parce qu'on sait qu'au moins sur tous ces sujets-là, on se retrouve tous. Donc, tous ces sujets-là, les animaux sauvages, la chasse, la corrida, tout ça, on essaie de mettre fin à tout ça. Et puis sinon, on va essayer vraiment de pousser fort pour que les gens, dans leur quotidien, ils puissent vivre mieux avec leur animal, que ce soit par rapport aux mesures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui puissent être des crédits d'impôt ou des aides, justement pour que ça coûte moins cher et qu'il y ait moins d'abandon et que l'animal soit reconnu, ou bien pour que ce soit dans l'éducation, pour que on se rende compte que de toute façon, on vit avec ces animaux. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'avait dit, mais est-ce qu'être animaliste, finalement, c'est vraiment une politique? Je dis, de toute façon, c'est social. Et à partir du moment où on est dans un problème social, forcément, ça devient un problème politique.
Merci à vous, François Blaise, d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à midi et à 18h et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élections législatives. À 8h30, nous accueillerons Jacques Lefebvre, candidat du Parti ouvrier indépendant démocratique. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM. Élections législatives 2022.